Les écrans suspendus.
Les écrans suspendus.
Bienvenue dans la nouvelle émission Cinéma de Fréquence 7, Les écrans suspendus, dans laquelle nous vous présentons chaque semaine un film que nous avons hâte de voir avec vous sur grand écran, quand les salles obscures seront réouvertes, bien évidemment. Aujourd'hui, nous nous penchons tel des fées sur Tenet, le nouveau-né de l'incontournable et fascinant Christopher Nolan. Alors, j'ai bien sûr à mes côtés Olivier et Mathieu pour en parler plus longuement.
Bonjour. Salut.
Et nous commençons peut-être avec Mathieu pour nous présenter Christopher Nolan et son univers cinématographique.
Bah oui, merci Cathy. C'est avec plaisir de présenter Christopher Nolan. S'il est, voilà, c'est un réalisateur qui aujourd'hui est extrêmement connu parce que notamment à travers ses blockbusters, que ce soit Inception, Interstellar ou encore le dernier Dunkerque en 2017. Voilà, il s'est aussi bien aventuré dans les films comme le dernier Dunkerque. Historique que les films plutôt dans le genre super-héros avec les Batman Begins et Dark Knight. Voilà, c'est un réalisateur à tout faire, mais quelque chose revient souvent dans son cinéma, c'est que bien sûr, il est connu comme un amoureux de la pellicule. Et avec ses caméras IMAX, c'est un défenseur des effets pratiques sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, on a affaire de plus en plus à des fonds verts, à des effets qui sont louables, hein, mais voilà, son cinéma est vraiment axé sur le terrain, sur le minimum de studio pour le maximum de réalisme. Et voilà, il est connu pour ça. Et ce qui revient souvent dans ses films, et ben, c'est que ses films sont marqués par l'audace. Il aime montrer des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Il aime s'aventurer sur des terrains qui sont inconnus pour nous et dont on se pose beaucoup de questions en tant que spectateur normalement. Donc les thèmes sont complexes et les scénarios sont souvent alambiqués. Et c'est du coup, son cinéma nous fait cogiter en tant que spectateur. Et comme je le disais avant, voilà, il aime montrer ben, l'immontrable. Par exemple, dans son film sur les rêves, Inception, avec Leonardo DiCaprio, il montre ben, la construction d'un rêve. Dans Interstellar, la cinquième dimension, l'intérieur d'un trou noir. Il est dans Memento qui était sorti en 2000, l'exploration de la mémoire. Voilà, ce sont des thèmes que l'on voit souvent dans ces films revenir. C'est quelque chose qui nous pousse à aller voir l'inconnu. Voilà, et c'est ce qui, je pense, attire énormément dans son cinéma. Il y a aussi la notion de grandiose, malgré qu'il y ait très peu d'effets spéciaux par ordinateur. Ce que l'on voit à l'écran est toujours par la notion de réalisme, c'est toujours impressionnant. Et il y a aussi, je voulais aussi parler de deux choses qui reviennent souvent dans son cinéma. Par exemple, il y a la notion, ben, pour les férus de cinéma, je pense qu'ils connaissent bien, c'est le fusil de Tchekhov. C'est le fait que quand un élément est montré à l'écran, on peut être sûr qu'il va revenir dans le film, dans le récit, pour résoudre l'intrigue. Et c'est quelque chose qu'on revoit souvent. Si quelque chose est montré, on peut être sûr qu'il sera utilisé. De quelle manière, on ne sait pas. Mais voilà, il y a une construction très particulière dans ces films qui fait que, ben, qu'on se régale toujours autant devant. Et un dernier point, c'est aussi la notion du temps. Il aime jouer avec le temps, que ce soit dans la science-fiction comme Interstellar, avec le fait que le temps est plus ou moins... tendu, détendu, mais ça, je pense qu'Olivier pourra mieux le dire. Et il y a aussi la notion de, le fait que le temps fait partie intégrante du récit. Par exemple, Interstellar, il peut carrément construire son récit et à la fin, on se dit, waouh, d'accord, il voulait venir à ce point-là. Donc peut-être qu'Olivier, tu peux nous en dire plus.
Oui, bah écoute, effectivement, quand tu dis que Nolan, il a le goût de montrer l'immontrable, effectivement, moi, quand j'ai appris de peu de choses qu'on sait du synopsis, que finalement, il s'agit pour les héros de Tenet d'empêcher une troisième guerre mondiale en retournant dans le passé, ça m'a effectivement tout de suite titillé, parce que moi, j'ai toujours été préoccupé par les fictions qui jouent justement sur le temps depuis ma lecture adolescente de La machine à remonter le temps de H.G. Wells, qui d'ailleurs a donné lieu au moins à deux films, un en 1960 de George Pal et l'autre en 2002 de Simone Wells. Alors, je ne sais pas si c'est de famille, mais bon. Et donc, il s'agit pour le héros de retrouver un amour perdu en remontant dans le temps. Et effectivement, métaphysiquement, logiquement, on se doute bien que quelqu'un qui a fait de la philo son métier, ça le gêne un tout petit peu, cette façon de jouer avec le temps. Et c'est particulièrement visible dans un film culte que je ne connaissais pas encore assez récemment et qu'un collègue m'a un jour presque forcé à regarder et que, d'ailleurs, Cathy m'a rappelé, c'est un court métrage à jeter, là, 28 minutes de Chris Marker, où là aussi le cinéaste tente de nous faire croire, n'est-ce pas, qu'un retour dans le passé pour le modifier est possible. C'est-à-dire, ce court métrage d'ailleurs est constitué de plans mobiles, mais aussi de tout un jeu de photos. Qui nous fait d'ailleurs penser à un arrêt au moins provisoire du temps. Et la jetée de Chris Marker, les droits ont d'ailleurs été rachetés par Terry Gilliam en 95 pour finalement l'adapter et fabriquer ce film quand même fabuleux, L'armée des douze singes, avec Bruce Willis. Il faut rappeler que dans L'armée des douze singes, il s'agit de quitter 2035 pour retourner en 1996, date de la diffusion d'un virus qui n'a laissé vivant par la suite qu'un pour cent de l'humanité. Donc Bruce Willis est un prisonnier qu'on renvoie dans le passé pour essayer d'endiguer la diffusion de ce virus. En fait, il y a peut-être d'autres raisons, mais voilà. Alors, évidemment, ce qui gêne entre guillemets le philosophe, c'est que bon, on logiquement et métaphysiquement, on comprend pas comment on peut quitter un présent pour aller dans un passé et le modifier. Et modification qui apportera évidemment via le déterminisme une modification du présent dans lequel du coup il se pourrait qu'on puisse même pas démarrer vers le passé et même peut-être pas exister, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est un retour vers le futur de Zemeckis. Quand on pense à ça, évidemment, quand tu dis, on pense tout de suite à retour vers le futur.
Ouais, c'est ça. Donc, cette modification du passé qui entraîne forcément une modification du présent, qui remet en cause la nature même du présent dont on part pour aller vers le passé, quoi. Donc, et ça, si vous voulez. Alors, je sais pas si c'est pas lié à une mauvaise compréhension de la théorie de la relativité d'Einstein, ou je sais pas. En tous les cas, derrière ça, il y a toujours plus ou moins l'idée d'une superpuissance de la science qui permettrait de supprimer même linéarité du temps. Alors moi j'essaye d'être rapide. Un film que je jouais là-dessus, c'est un jour sans fin. Mais je crois que moi, un jour sans fin m'a pas gêné de ce point de vue-là, parce que c'est pas la toute puissance de la science qui fait ça. C'est une espèce d'égoïsme du héros qui finalement est remis en cause par le fait qu'il revit toujours la même journée. Et donc c'est Bill Murray, évidemment. Et finalement, il le sort de la boucle temporelle grâce à l'amour qu'il a pour Andy McDowell. Donc ça m'avait moins gêné, ce jeu sur le temps, à partir du moment où il était l'occasion de parler de la puissance de l'amour et non pas de la puissance de la science. Voilà. Alors moi, évidemment, la question, est-ce que Nolan, dans Tenet, il a réussi à faire passer la pilule ou pas? C'est un petit peu la question. Voilà.
Oui, et c'est un palindrome, d'ailleurs. Tenet est la clé, peut-être, du mystère et dans ce thème. Voilà. On verra avec le film. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Christopher Nolan met absolument tout en œuvre pour que le film sorte cet été. C'est quand même le blockbuster de l'été. Il n'a pas encore changé sa date de sortie face à la pandémie. Donc, évidemment, nous croisons les doigts parce que c'est important que si les salles réouvrent au mois de juillet, nous puissions avoir des films et des films de ce type à diffuser, à montrer, à projeter. On sait donc peu de choses sur l'intrigue de Tenet. On peut dire que c'est un des films, apparemment c'est le film le plus ambitieux du réalisateur, qui a dépassé en termes de coûts ses films précédents, et il a tourné dans 7 pays différents. Ce serait donc un film d'espionnage d'une grande ampleur, avec un casting très intéressant d'ailleurs. Nous avons Robert Pattinson qui, lui, est pourtant un second rôle. Donc Robert Pattinson, non, je pense qu'on ne le présente plus, mais c'est on l'a connu avec le teen movie Twilight. Les filles sont amoureuses de lui, bien entendu. Nous avons aussi John David Washington, qui lui a été remarqué pour son rôle dans Black Lanceman de Spike Lee. Donc c'est lui le héros du film, donc on va pouvoir le suivre avec grand intérêt. Et en fait, aussi avec Elisabeth Debicki, donc cette actrice là, moi je la trouve absolument formidable dans tous les rôles. Que ce soit des films comme dans le film de Guy Ritchie où elle joue dans ses agents très spéciaux, Code Uncle, elle est absolument formidable. Elle joue dans Gatsby le Magnifique aussi, dans Vita et Virginia dernièrement. Et c'est une actrice à suivre sans hésitation. Donc le cinéma de Christopher Nolan, se nourrit, vous l'avez entendu, hein, de préoccupations philosophiques, sociologiques, éthiques. Et on a, comme l'a dit Mathieu, effectivement, grand intérêt et on a hâte de voir le résultat qui va nous être présenté, nous l'espérons, le 22 juillet prochain dans toutes les salles de cinéma. Et il devrait sortir le 17 juillet aux États-Unis.
Ouais. D'ailleurs, Cathy, oui, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que en plus de son cinéma qui est assez quand on parle de grand cinéma et de résistance du point de vue moyen de cinéma, caméra, on va dire plus le côté traditionnel du cinéma, on pense à à des gens comme Christopher Nolan, on pense à Steven Spielberg, etc. Je trouve qu'ils rentrent dans le même de Exactement. Façon différente, mais voilà.
Ouais,
Et Et en plus de cela, le voir, parce que je suis un peu d'actualité sur ce film, en plus de ça, le voir entrer autant en résistance avec les studios, etc., pour pouvoir sortir son film, pour rouvrir les salles avec son film, alors que le risque est très gros derrière, on ne sait pas du tout la réaction. Ouais. Je trouve ça extrêmement courageux pour un film de cette ampleur. Et on a besoin de personnes comme ça dans le cinéma.
Effectivement, il fait absolument tout pour que le film sorte cet été et que les salles, effectivement, réouvrent avec lui, notamment. Et tu as raison de citer Spielberg. Je pense que c'est un digne héritier de Spielberg, parce que son cinéma est toujours situé entre l'art, l'industrie, le divertissement, la poésie. Voilà, c'est vrai que c'est un artisan du cinéma, ce Christopher Nolan, et on aime beaucoup ce qu'il fait depuis Memento. C'est son 11e long métrage. Voilà, donc nous avons fini, je pense, pour la présentation de Tenet de Christopher Nolan, qui sera, nous l'espérons, dans les salles le 22 juillet. Et la semaine prochaine, nous présenterons, si vous le voulez bien, Kaamelott de Alexandre Astier.
Ah ouais.
Voilà. Si ça vous va. Ça joue, Olivier.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bonne semaine à toutes et tous. Merci
à tous.
Ciao.